et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Donc, aujourd'hui, on va recevoir Priscilla Skagg, qui est une Québécoise expatriée en Californie. Elle va nous en dire plus dans quelques secondes. Encore une fois, j'ai décidé de faire un épisode in extremis lié au coronavirus puis tout ce qui se passe, la situation dans le monde actuellement. Alors, je vais commencer tout de suite. Bonjour Priscilla, comment ça va?
Bonjour Dominique, merci pour l'invitation. Ça va bien.
On aurait pu faire un podcast dans d'autres circonstances depuis longtemps. On le fera éventuellement ensuite, après ce qui se passe actuellement. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé ça. C'est ça qu'on aborde la situation de ton point de vue à toi pour transmettre, disons, l'information aux gens qui nous écouteraient. Donc, premièrement, j'aimerais ça qu'on parle de ta situation d'expat en tant que telle. Toi, tu es une Québécoise expatriée, donc raconte-moi un peu ce qui t'a amené à aller vivre où tu es, puis c'est quoi l'histoire, depuis combien de temps?
C'est mon mari qui m'amène à vivre en Californie. On s'est rencontrés en 2007 au Honduras, alors qu'on voyageait les deux pour étudier l'espagnol. Et puis, ça a commencé là. On a été longue distance pendant 4 ans et demi. Et ensuite, en 2012, officiellement, j'ai déménagé à 100% aux États-Unis. Avant, on se voyait quand même de façon régulière, mais on voyageait soit aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde. Puis ensuite, c'est ça. Moi, je suis infirmière, donc j'ai passé tous les examens. J'ai obtenu mon visa de travail et j'ai déménagé en 2012. Là, j'ai commencé à travailler comme infirmière au Connecticut au début là, pour 3 mois. Puis ensuite, là, j'ai transféré dans le nord de la Californie.
Est-ce que tu as été infirmière au Québec avant de partir ou tu t'es qualifiée, tu es devenue infirmière aux États-Unis directement?
Non, j'ai été infirmière au Québec. J'ai gradué en 2005, donc j'ai travaillé... au Grand Brûlé, j'ai travaillé à l'urgence et aux soins intensifs dans plusieurs hôpitaux là, de Montréal.
OK, donc tu connais bien le système aussi au Québec en tant qu'infirmière. Tu es déménagée en Californie, tu es mariée avec ton... C'est ton mari,
hein? Okay, c'est oui, ça. Puis on est mariés depuis 2013 qu'on est mariés. On s'est mariés dans le nord de la Californie, à Fort Bragg, puis on est déménagé en 2014. Dans le sud de la Californie, près de San Diego.
OK. Puis vous avez 2 enfants maintenant?
Oui, on a un garçon de 5 ans et une petite fille de 2 ans.
Puis là, de ce que je vois du portrait global, tu es bien installée aux États-Unis, tu n'es pas en transit, c'est pas temporaire, c'est pour le moment, tu envisages la vie en Californie.
Oui, on est installé dans le sud de la Californie, on aime vraiment ça, c'est un bel environnement. On compte rester ici là, jusqu'à notre retraite.
Puis, ton conjoint, est-ce qu'il est dans le domaine de la santé, lui aussi?
Non, pas du tout. Il était en télécommunication. Quand on s'est rencontrés, il travaillait pour Ericsson. Puis, là, il travaille pour une compagnie, dans le fond, pour le développement de la télécommunication. Son client, c'est AT&T. Fait qu'il travaille, dans le fond, pour la maintenance et le nouveau développement de tours de cellulaire, dans le fond.
OK. Donc, rien à voir. Est-ce qu'en ce moment, lui, il travaille ou il travaille de la maison?
Oui. Ben, avant même la situation du COVID-19, il travaillait déjà principalement de la maison. Fait que ça n'a comme pas trop affecté nos horaires de travail, en fait.
OK. Parfait. À la différence près que maintenant, il y a 2 enfants à la maison à temps plein.
Oui, mais on avait déjà une amie qui venait quand moi je travaillais. Elle continue à venir là, pour nous aider avec les enfants. Fait que notre situation n'a pas trop changé.
Ah, OK. Super. Donc là, on va aborder directement le sujet. J'aimerais ça qu'on mette ça sur une ligne du temps, ce qui s'est passé depuis la vie normale jusqu'au jour où on se parle aujourd'hui. Donc, tu sais, comment ça s'est développé la situation dans ton coin en lien avec le COVID-19?
OK. Donc, c'est sûr que dans les dernières semaines, la progression a été quand même assez rapide au niveau des protocoles qui ont été mis en place à l'hôpital même où je travaille, aussi les protocoles puis les qui ont été instaurés dans les villes en tant que telles pour la protection de la population. Donc, au début, c'était plus, je dirais, on regardait les autres pays, on regardait les autres villes faire leur protocole. Puis ensuite, là, il y a deux semaines et demie, on a commencé à installer les tentes à l'extérieur de l'urgence. Et puis, on a commencé à les installer, les utiliser il y a deux semaines. Fait qu'on était quand même assez proactifs, nous, en tant qu'hôpital où je travaille. Et on a vraiment installé 3 systèmes de triage aussi. Fait qu'il n'y a pas aucun patient qui rentre à l'intérieur. On n'a aucun visiteur qui rentre. Je pense que les seules personnes qui ont le droit à un visiteur présentement, c'est les gens qui sont en salle d'accouchement. Et puis, tout ça s'est passé en dedans de 2 semaines. Fait que c'est aucun visiteur. On a installé des protocoles de triage. Et dans la population en tant que telle, maintenant, toute la Californie est en lockdown. Mais tu sais, chaque ville a leur propre réglementation aussi. Là. Puis même ici, samedi passé, pour la première fois, hier en fait, les plages sont fermées, mais aussi les trottoirs sont fermés. Il y a des enseignes, puis les gens peuvent avoir des amendes s'ils vont se promener là, dehors dans ces endroits-là.
Oh, wow! Puis si, par exemple, tu habites dans un bloc, puis tu as un chien, c'est quoi les règles autour de ça rapidement? Hein?
Je ne sais pas exactement par rapport à ça. Je pense que tu as encore le droit d'aller dans les parcs, j'imagine. Mais tu sais, comme je suis plus ou moins renseignée par rapport à ça parce que nous, on a une cour, puis on a nos chiens. Mais hier, j'ai habité à Mission Beach pendant un bout, puis on a nos collègues, des amis qui habitent toujours là, puis ils ont envoyé des photos que, tu sais, c'est tout vraiment fermé. Je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs chiens. Ils ont le droit d'aller, j'imagine, dans les parcs, mais, tu sais, probablement temporairement. Puis, la sécurité passe. Ils doivent dire qu'ils ne peuvent pas juste comme se promener pendant longtemps, juste de faire ce qu'ils ont à faire, puis de retourner à la maison.
Oui. OK. Puis là, revenons à ton lieu de travail. Là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous aviez pris des mesures déjà en amont avant que le besoin soit là. Ces installations-là, ils n'ont pas été faites pour répondre à une demande immédiate, mais parce que vous voyez venir la vague. Là.
Absolument. Non, on a un excellent leadership présentement. Je suis vraiment fière de pouvoir travailler dans un hôpital quand même aussi proactif. Même au niveau de l'équipement, c'est vraiment difficile parce que c'est dur. Les hôpitaux ne planifient pas d'avance d'avoir à utiliser autant de matériel, mais malgré ça, on a à chaque semaine des nouveaux... des mises à jour, puis on a eu de l'équipement, de le nouvel équipement qui a été fait pour être réutilisé. Donc, ils sont vraiment proactifs. Fait que c'est bien pour ça. C'est rassurant.
OK. Puis là, on parlait là, juste un peu avant l'enregistrement, tu me disais qu'il y avait des cas à ton hôpital actuellement, à l'hôpital où tu travailles. On a parlé de 22 cas pour le moment. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passe, les mesures là, quand quelqu'un se présente, mettons, avec des symptômes ou...
Absolument. Ouais. Donc, on a mis en place un système de triage, donc qu'on a déjà habituellement, mais là, on a 3 systèmes. Donc, les gens qui arrivent sont vus à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il n'y a personne qui peut entrer. Donc, on est avantagé dans le sens qu'on on habite en Californie, fait que je sais qu'on
est. Oui, c'est ça, vous avez l'avantage de la météo.
Exactement, c'est ça. Fait qu'on a l'avantage de ça, mais c'est ça. Tout le monde est vu à l'extérieur. Et puis, dès que les gens ont des symptômes de grippe ou fièvre ou qui ont voyagé ou tous les symptômes qui peuvent être liés au COVID-19 sont vus dans une autre tente. Et ensuite, de cette tente-là, ils vont voir si cette personne-là est stable ou doit être vue dans un lit d'hôpital. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont établi le diagnostic stable, ils vont être vus dans les tentes à l'extérieur et ils vont être testés et ensuite renvoyés à la maison. Donc, le processus est quand même assez rapide. Là. En moins de 30 minutes, tout peut être fait et okay. Retourner à la maison. S'ils sont stables. Et à ce moment-là, on leur donne les consignes de rester à la maison, ils ne peuvent pas sortir, pas d'épicerie, pas même s'ils sont à la maison avec leur famille, on leur dit de rester comme le plus possible séparés, pas coucher dans le même lit, garder leur masque, d'être très, très, très prudent jusqu'à ce qu'ils reçoivent leurs résultats d'examen, dans le fond, du COVID, qui Maintenant, malheureusement, prend plus de temps. Au début, c'était 2 ou 3 jours. Là, c'est rendu prend 5 à 6 jours à cause
à cause de la demande.
Exactement. Et s'ils sont moins stables, ils rentrent dans. On a 2 sections de l'hôpital, mais il y en a une qu'on a confinée principalement pour les COVID-19. Et puis, ils rentrent là par la porte d'en arrière, en fait. Et puis, ils vont directement dans un lit là. Puis, il y a juste des patients qui sont possiblement aux prises avec le COVID.
Comment ça se fait la sélection des employés qui vont s'occuper d'eux? Parce que, quelque part, vous êtes, les gens qui travaillent avec eux sont hyper exposés, là.
Oui. En fait, on essaie de faire une rotation, non seulement parce que l'exposition, mais c'est quand même une procédure qui est très laborieuse là, pour l'équipement. Donc, c'est très demandant physiquement et émotionnellement aussi là, d'avoir des patients qui sont juste possiblement COVID. Donc, nos infirmières en chef là, essayent de faire une rotation par rapport à ça. Mais ça va bien jusqu'à présent. Là, les gens gardent le moral. On a vraiment une équipe exceptionnelle. Je peux pas... Pour avoir travaillé au Québec, je sais que le Québec, avant même d'avoir été exposé par cette pandémie-là, était aux prises avec des problèmes de pénurie. Puis, tu sais, j'ai eu à faire du temps supplémentaire obligatoire. T'sais, ici, la situation est vraiment différente. Là, on a des infirmières qui sont juste pour nous donner des pauses. On a des infirmières qui flottantes qu'on appelle pour aider les gens. Fait qu'on n'a pas encore cette problématique-là de surcharge de travail en tant que telle.
Est-ce que dans votre... Parce que le gouverneur ici au Texas a lancé cette décision-là, fait que je me demande si c'est la même chose en Californie ou si c'est partout aux États-Unis, mais est-ce que il y a eu une décision comme quoi les gens qui avaient, tu sais, les infirmières à la retraite pouvaient retourner travailler, celles qui étaient, en dernière année d'études, celles qui étaient en stage, tu sais, il y a comme plusieurs personnes qui ont été autorisées à aller sur le terrain pour aider. Est-ce que c'est le cas dans votre coin aussi?
C'est une bonne question. Je ne suis pas au courant à 100%. Okay. Je sais que j'ai entendu au Québec qu'il y avait appelé les infirmières qui étaient retraitées. Je pense qu'ils ont fait la même chose aussi. Une de mes collègues de travail mentionnait ça, mais je ne suis pas sûre à 100% comment ça fonctionne exactement. Okay. Puis pour les gradués, je ne sais pas. Parce que la Californie, c'est quand même un État qui est quand même... au niveau des lois, c'est l'État la plus rigide, la plus stricte. Fait que je ne sais pas à quel point là, ça va être modulé ou transformé pour cette pandémie-là.
OK. Puis, sinon, toi, est-ce que tu as été dans ce département-là, de la section spéciale du COVID à l'hôpital? Est-ce que tu t'es retrouvée là-dedans?
Ah oui, oui. Souvent, j'ai été dans les tentes, j'ai été dans la section COVID. Même que personnellement, j'ai la chance d'être une personne quand même relativement très en santé et j'ai une famille qui est très en santé et on n'est pas exposé à des personnes âgées. Donc, mes collègues de travail que je sais, exemple, j'ai une collègue de travail que son conjoint est en chimiothérapie. Moi-même, je lui ai proposé si t'es demandé à aller dans la section COVID, ça me dérange vraiment pas de prendre ta place. Moi, je l'ai offert à tous mes collègues de travail qui sont asthmatiques ou qui ont des membres de leur famille qui sont plus à risque. Je vais de prendre leur place parce que je trouve que c'est une situation qu'on doit tous aider là, par rapport à ça. Même si eux, ils étaient pas trop, à ce moment-là, la semaine passée, ils étaient pas trop inquiets. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut être conscient de ça. Si on a des collègues de travail qui sont plus à risque, de pouvoir s'entraider entre nous.
Bien, effectivement, c'est je pense que c'est devenu primaire là, dans les circonstances. Dis-moi, ça a l'air de quoi, justement, sur les malades sur le terrain? Là, qu'est-ce que vous constatez? C'est surtout, là, on sait que les symptômes, c'est bon, de la fièvre, de la toux, les premiers symptômes. Là. Est-ce que c'est flagrant, évident? On dirait que c'est des patients qui ont des pneumonies. À quoi on pourrait associer là, un patient qui a le COVID-19?
En fait, c'est vraiment pas typique. Je pense qu'on on voit des cas qui sont quand même relativement stables, qui ont le COVID-19, puis on a des cas. Ce que j'ai plus remarqué, principalement, c'est comme la diminution de l'oxygène en tant que tel, que même si le patient peut être quand même stable, mais avoir une diminution de son oxygène, la saturation qu'on appelle. Donc, mm-hmm. une saturation normale, c'est idéalement en haut de 95. Donc, on va les voir là, avec une plus basse dans les 80 ou même dans les... Puis, ils ont besoin ce qui devient problématique, c'est qu'on ne peut pas leur donner via lunette nasale plus de 6 litres par minute. Donc, les intubations doivent être faites beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres patients qui sont aux prises avec des problèmes respiratoires. Et aussi, on a vu beaucoup quand même des pneumonies qui sont relativement là, au rayon X, qui montrent qui est montré typique là, par rapport au COVID. Mais on a eu quand même des positifs qui ne sont pas nécessairement reliés à ça. Fait que c'est difficile. Il y en a qui viennent à l'urgence avec des douleurs abdominales, avec une fièvre, puis ça peut être un COVID aussi. Fait que c'est pas évident de les diagnostiquer présentement.
Wow! Je ne savais pas que c'était aussi large que ça. C'est intéressant. Puis, dis-moi, est-ce que vous faites une genre de... Tu sais, tout de suite, là, est-ce que ça fait partie des mesures de faire une genre d'enquête sur d'où tu viens, où tu allais, avec qui tu étais en contact, où est-ce que tu es allé? Tu sais, oui, as-tu voyagé, j'imagine, mais c'est jusqu'où vont les questions pour assurer autour de ces gens-là?
À l'urgence, on est quand même limité dans les questions. Je ne sais pas, peut-être qu'une fois qu'ils sont admis à l'hôpital, il y a plus d'enquête qui est faite, mais au niveau où moi je travaille, on ne fait pas cette enquête-là. On fait juste demander par rapport aux questions personnelles au patient s'il est en contact avec les gens, mais on ne fait pas le suivi par rapport à sa famille ou les gens qui étaient en contact. Je ne sais pas si, une fois qu'ils sont admis, en plus de l'équipe d'infection, s'ils font plus ce suivi-là, mais je pense qu'à ce moment-ci, par exemple, il y a tellement de monde qui sont possiblement contaminés, mais pas de symptômes, que ça risque de prendre beaucoup de temps, puis on n'a pas, de toute façon, les ressources présentement pour tester pour le COVID pour une masse population. Fait que je ne sais pas si cette enquête-là deviendrait comme utile à la fin.
OK. Puis, tu sais, là, bon, tu as travaillé au Québec, on en parlait tantôt. Actuellement, le Québec est aussi là, dans ses mesures autour de ça, puis ça, tu ne l'as pas vécu parce que c'est tout nouveau. Mais tu sais, j'imagine que tu suis les nouvelles comme tout le monde. Est-ce que tu notes des différences assez flagrantes entre les procédés au Québec, au Canada, puis ceux aux États-Unis ou dans ton coin en Californie, du moins?
Oui. Mais je pense que c'est ça. Chaque hôpital est différent. C'est difficile d'expliquer. Moi, je peux parler pour moi-même, puis j'ai plusieurs de mes amis, en fait, presque toutes mes amies au Québec sont infirmières ou dans le domaine de la santé. Mm-hmm. Ce que je peux donner comme observation présentement, c'est que, comme je disais tantôt, ils sont déjà aux prises avec une pénurie, fait que les infirmières sont déjà appelées à travailler des heures supplémentaires. T'sais, j'ai une de mes collègues qui vient juste me dire que elle a travaillé 10 jours en file, des 14 heures par jour. Ce sera pas évident. Je pense que ça va être ils vont avoir besoin vraiment beaucoup d'aide. Pour ce qui est aussi du matériel, je travaille dans un hôpital qui est quand même relativement chanceuse. On reste dans une communauté qui est quand même bien financièrement. Donc, on a beaucoup de gens qui donnent des dons financiers. Alors que le Québec, c'est un peu plus difficile avec un système social. C'est tout injecté par le gouvernement. Fait que, ils peuvent être limités par les ressources pour les protocoles de protection. Fait que ça va rester à voir. Même aux États-Unis, par exemple, moi, je suis chanceuse de travailler dans un hôpital quand même relativement aisé, comme on pourrait dire, parce que c'est vraiment comme c'est privé. Fait que il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup qui peuvent venir de la communauté. Mais tu sais, juste à Los Angeles, si on se compare à des hôpitaux qui sont plus, ils vont avoir peut-être plus de difficultés à respecter les mesures préventives que c'est pour le matériel.
Oui, OK. En lien avec toi maintenant, là, parce que là, tu me parlais de l'infirmière qui fait, mettons, 14 jours en ligne. Moi, la cloche que ça me sonne, c'est attention à ton système immunitaire, tu sais, la fatigue, tout ça. Toi, personnellement, est-ce qu'il y a des mesures que, tu sais, on le sait qu'il faut se laver les mains, qu'il faut faire attention, tu sais, on connaît les mesures de base, là, on les véhicule beaucoup dans les médias, mais toi, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as plus attention, ton alimentation, ton, t'sais, bouger, prendre de la lumière, te reposer? Est-ce qu'il y a comme des choses, est-ce que tu vas plus loin là-dedans, étant donné que tu es sur le premier sur le terrain finalement.
J'ai pas encore changé drastiquement ce que je faisais déjà avant. Je pense que je j'essayais comme d'être en santé, mais définitivement, c'est quelque chose que je parle, tu sais, on parle, tu sais, il y a souvent les pubs de superfoods, j'étais comme, je mentionne tout le temps, Jason, il faut absolument que je commence à prendre des superfoods, puis extra vitamines, puis j'ai pas commencé encore, mais c'est comme, ça trotte dans ma tête, je suis comme, ouais, je suis due, là, puis je me dis tout le temps, il faut que je me remette en forme, puis il faut que je, tu sais, il faut, mais je l'ai pas fait.
Ça serait dans un monde idéal, tu sais.
Moi, c'est ça, dans mon monde idéal. Mais c'est dans mes prochains objectifs, là, de mettre une petite routine, là, puis de commencer à prendre plus. Là. En fait, j'ai commencé à prendre mes vitamines C plus de façon régulière.
Ouais.
Mais sinon, je n'étais pas la personne là, qui prenait le plus de vitamines. Mais ça fait penser que je suis comme, oh, OK, je devrais vraiment comme essayer de plus booster mon système immunitaire. Puis aussi tu sais, qui est bien populaire ici, je ne sais pas si comment ça se passe au Texas ou ailleurs, mais ils ont des intraveineuses de vitamines. Je ne sais pas si tu as vu ça.
Oui, j'ai vu ça. Je connais pas, là, mais oui, j'ai vu ça passer.
Oui, mais c'est ça. Fait que c'est pas super populaire, mais c'est comme ça c'était comme un peu la tendance dernièrement. Fait que là, comme c'est quelque chose que je pense parce que tu sais, ça donne vraiment un super de bon boost immunitaire. Fait que j'ai vu certains de mes collègues qui l'ont fait là, dernièrement. Fait que ça m'a comme fait penser à ça. Là, fait que c'est ça, ça trotte dans ma tête. Donc, j'y pense vraiment qu'il faut que je fasse attention de bien dormir, de quand même me reposer. Je me suis quand même portée volontaire pour travailler plus, mais je travaillais juste 2 jours semaine avant. Fait que là, la semaine passée, j'ai fait 4 jours. Fait que c'est quand même relativement c'est pas trop d'heures. Là. Je peux pas me plaindre par rapport à ça, mais...
C'est ça, ça n'a rien à voir avec l'horaire des infirmières au Québec actuellement.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Puis là, on en parlait un petit peu ça aussi avant l'enregistrement. On parlait de l'avenir, on parlait de ce qui s'en vient. C'est sûr que la question qui est sur toutes les lèvres, c'est jusqu'à quand ça va durer? Il n'y a personne qui a de boule de cristal, il n'y a personne qui connaît la réponse. Comment toi, tu vois l'avenir là, autour de ce qui s'y arrive, ce qui s'en vient? On parle des courbes, on parle des pics. Comment tu penses, tu sais, sans donner la réponse parce qu'il n'y a personne qui l'a.
Ouais. Mais, ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu peux penser de ça, toi?
Mais je pense que, tu sais, avec les observations qu'on peut faire avec les autres pays qui sont aux prises avec cette même pandémie-là, mais tu sais, c'est sûr que je pense que l'Amérique du Nord, les États-Unis, Canada ont, bien, probablement ailleurs aussi, là, mais tu sais, c'est les pays que je connais le plus. La courbe, elle va monter avant de redescendre. Ça, je suis presque certaine que ça y va. T'sais, à tous les jours, il y a plus de cas. Mais je pense que les gens commencent à être un peu plus sensibilisés et plus concernés par la gravité de la situation. Je pense qu'il y a quelques semaines, il y a encore des gens qui doutaient vraiment de que c'était vraiment nécessaire d'avoir une distance sociale. Je pense que les gens sont plus, ils réalisent plus un peu l'envergure de la situation. Fait que je pense que quand que les gens vont prendre plus conscience de la gravité de la situation, mais on va peut-être plus en mesure d'être effectif au niveau de la distance sociale, puis de pouvoir réduire là, graduellement la courbe là, ce qui est la contamination.
Oui, c'est ça. Donc, finalement, c'est vraiment de miser là-dessus pour que la courbe prenne le moins d'ampleur possible puis que le système soit capable de gérer toute cette demande-là qui, d'après ce que j'en prends, va arriver de toute façon. Là. C'est comme inévitable de passer dedans.
Je pense que oui. T'sais, je suis pas une experte, mais je pense que la courbe va monter. C'est juste de pouvoir être en mesure de soigner les gens le mieux qu'on peut avec le système de santé qu'on a ici au Canada. Bien, pas ici au Canada, mais ici aux États-Unis ou au Canada aussi. Puis de pouvoir aussi avoir la main-d'œuvre aussi. Parce que c'est sûr que le système de les infirmières, les médecins, il y en a d'entre nous qui vont avoir le COVID-19. Qu'on va devoir rester à la maison. Fait que, c'est de pouvoir planifier d'avance, de contrôler la pandémie, puis de pouvoir être en mesure de soigner les gens le mieux qu'on peut, dans le fond.
Puis, un dernier point, avant de se quitter aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'atmosphère entre les professionnels de la santé dans l'hôpital où tu travailles. Du moins, on voit tellement des belles choses sur les réseaux sociaux, tu sais, des chansons, des prières, des chants. Tu sais, il y a comme plein de trucs là, qui se passent. J'ai l'impression que autant tout ça éloigne les gens par la distanciation, la distance sociale, mais en même temps, j'ai l'impression que ça rapproche les gens aussi. Est-ce que vous sentez ça dans ton milieu de travail?
Moi, je trouve qu'on... Oui, je le sens, puis je pense qu'on le sent justement de la communauté, des gens autour de nous, que tout le monde supporte tout le monde. T'sais, on veut vraiment que tout le monde s'en sorte bien de cette situation-là, puis qu'on sent vraiment l'amour et le support de nos collègues de travail, de nos supérieurs aussi, mais aussi de la communauté, puis de nos amis, de notre famille. T'sais, tout le monde est derrière nous, derrière comme les gens au front, mais de tout le monde qui doit travailler aussi, que ce soit même les gens qui travaillent à l'épicerie, au Walmart, on est comme tous dehors exposés. Je pense que tout le monde, là, avec les gens deviennent de plus en plus créatifs aussi, puis il y a les réseaux sociaux, puis my God, thank God qu'on a les réseaux sociaux pendant cette pandémie-là, pour vrai, là, parce que on peut faire tellement de choses pareilles, on peut parler à notre famille, on peut se voir, on peut comme trouver des moyens comme ça justement de faire des chansons, d'être créatif, de faire de l'exercice en ligne, on peut tout faire en ligne maintenant, fait que c'est vraiment...
As-tu pas l'impression que justement en tant qu'expat, on est encore plus proche de notre monde que d'habitude? Ça te fait ça, toi aussi?
Mais vraiment, mais en même temps, c'est drôle parce que moi et Justine, on disait comme notre routine n'a comme pas trop changé parce que tu sais, mes amis et ma famille sont comme toutes comme pas proches. Ouais. Fait qu'on est habitués de travailler d'être isolés un peu dans un sens. Fait que je suis comme ça. Pas trop changé, là, notre routine.
C'est exactement la réflexion qu'on avait, nous autres, aussi à la maison. Puis, tu sais, non seulement en tant qu'expat, on est habitué d'être loin de nos proches au Québec, tout ça, mais en plus, en ayant des enfants, on est habitué à, tu sais, on n'est plus non plus à sortir à tous les soirs puis avoir nos amis. Tu sais, la vie est comme plus aussi autour de notre famille en général. Donc, j'ai l'impression que ça a fait que c'est un peu moins frappant, tu sais, comme le besoin de s'isoler que. T'sais, si on était, je sais pas, au Québec, proche de nos familles, etc., puis qu'on n'avait pas d'enfants, puis qu'on sortait tous les soirs. Là,
absolument. De toute façon, exactement. Moi, de toute façon, les soirs, on écoute des films. On est très relax avec des petits-enfants. Fait qu'on n'a pas... Notre routine, elle n'a pas changé, nous, en tant que telle. Parce que justement, notre famille, nos amis sont au Québec. Fait qu'on leur parle toujours de façon virtuelle. Puis... on est quand même relax là, en tant que maman-papa. Fait que ça n'a pas trop changé, heureusement pour nous.
Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, ça adoucit un peu là, les gros changements. Écoute, Priscilla, j'ai adoré cette conversation-là. C'est le fun aussi vraiment de voir là, tout ce qui se passe, là, tout le travail qui est fait, l'ambiance dans les hôpitaux. Puis je trouve aussi que ça dédramatise parce que les chiffres sont épeurants, la pandémie, tout ça, ça fait peur. Là. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Le monde est en train de changer, mais à travers ça, on sent que les liens se resserrent. Puis, la pandémie existe, mais en même temps, vous faites un travail magnifique. Puis, vous êtes là pour aider les gens à s'en sortir. Puis moi, ça me frappe. J'ai une très bonne amie qui est pharmacienne aussi, puis j'observe d'ici le travail qu'elle fait au Québec, là. Puis, tu sais, alors que c'était une, sans rien de péjoratif, là, une simple pharmacienne avant, c'est devenu une superwoman à mes yeux, là. De voir à quel point, tu sais, vous êtes au front, puis vous êtes là pour aider les gens, là, c'est fantastique, c'est super beau. Un gros merci. Oui.
Mais merci à vous, puis merci. Oui, c'est ça. Le message d'amour est déjà vraiment présent partout, fait que c'est bien de voir ça, qu'on a ça en tant que communauté puis population, de partager l'amour qu'on a envers tout le monde. Là, c'est très positif.
Absolument. Ben, un gros merci, Priscilla.
Merci, Dominique.
Passe bonne une belle continuation. Journée.
Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié, afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!